c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Eh bien voilà, je suis ravie d'être avec vous pour l'air du temps. Et d'abord bien sûr, bonjour à chacun et chacune d'entre vous. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Eh bien on suit le conseil, mais surtout ne coupez pas le fil qui vous rattache à votre radio. C'est sur le 104.3 FM. Bonne écoute et surtout très très bonne matinée.
Elle ne veut pas découvrir la
Laurent Vouzy avec sa fille d'Avril. Avril a des cheveux de lilas, écrivait Rosemonde Gérard.
Radio Plus, appréciez la différence.
Alors, dans Saletant sur la planète, aujourd'hui, Jean-Louis Ouatté nous en dira plus sur l'inquiétude des riverains de la Gorgue et de Richebourg qui ont vu se déverser dans les champs des tonnes de remblais venus de Belgique. Rubrique animalière ensuite avec Christine Defort de la SPA d'Artois qui nous aidera à y voir clair avec les yeux de notre chat. Et en point de mire aujourd'hui, Gilles Huret et ses peintures.
Radio Plus, la radio 100% plaisir.
Et là tout de suite, on écoute Carla Bruni.
Je veux mes yeux dans vos yeux. Je veux ma voix dans votre oreille. Je veux les mains fraîches du vent. Je veux encore le mal d'aimer. Le mal de tout ce qui émerveille. Je veux encore brûler doucement, marcher à deux pas du soleil. Et je veux déranger les pierres, changer le visage de mes nuits, faire la peau à ton mystère. Et le temps, j'en fais mon affaire. Je veux ton rire dans ma bouche. Je veux tes épaules qui tremblent. Je veux m'échouer tendrement. Sur un paradis perdu. Je veux retrouver mon double. Je veux l'origine. Je veux caresser l'inconnu. Et je veux déranger les pierres, changer le visage de mes nuits, faire la peau à ton mystère. Et le temps, j'en fais mon affaire. Je veux mourir dimanche, au premier frisson du printemps, sous le grand soleil de Satan. Je veux mourir sans frayeur, fondu dans un sommeil de plomb. Je veux mourir les yeux ouverts, le nez au ciel comme un mendiant. Et je veux déranger les pierres, changer le visage de mes nuits, faire la peau à ton mystère. Et le temps, j'en fais mon.
Comme je vous l'ai dit, c'était Carla Bruni. Alors, notre enquête dans l'air du temps, eh bien certains vous diront que le bonheur est un voyage et non une destination à méditer, car c'est très philosophique hein, quand même. Et on pourrait disserter sur cette affirmation, mais je vais me montrer plus terre à terre en vous donnant les résultats d'une enquête. Savez-vous que 49% de personnes consultées disent que les voyages leur apportent plus de bonheur que le jour de leur mariage? Eh oui! Et 51% préfère voyager plutôt que de passer une soirée en amoureux. Là aussi, c'est à méditer.
Mmh. L'amour, quand il vient à passer, ne se fait jamais annoncer. Il arrive et s'installe dans notre vie, et l'on est séduit. Le temps de bien réaliser, on se tait, on ne sait plus que dire. On se raccroche à quelques sourires, tout ému de tenir dans ses bras un bonheur qui déjà nous fait dire que l'on n'a jamais aimé comme ça. Le plus grand bonheur du monde, c'est toujours celui que l'on a. Que ce soit une brune, une blonde, on est sûr que c'est celui-là. Pour moi, le plus grand bonheur du monde, le reflet de toutes mes joies. Je n'hésite pas une seconde, mon amour, à dire que c'est toi. L'oiseau qui traverse le ciel ne se méfie pas du danger. Et quand il s'aperçoit que l'on est cruel, il se voit tomber. Combien d'épreuves traversées, de nuits blanches laissées en otage. Comme il est lourd le prix du voyage pour aller jusqu'à l'éternité. Mais quand je repense à ton courage, je suis prêt à tout recommencer. Le plus grand bonheur du monde, c'est toujours celui que l'on a. Que ce soit une brune, une blonde, on est sûr que c'est celui-là. Pour moi, le plus grand bonheur du monde, le reflet de toutes mes joies. Je n'hésite pas une seconde, mon amour, à dire que c'est toi. On ne peut pas se dire heureux tant que l'on ne vit pas à deux. Être seul, c'est au fond faire un long chemin à peu près pour rien. Voilà déjà bien des années que l'on sait tout offert en partage. Et si l'on a subi les outrages qu'un amour ne peut pas éviter, aujourd'hui je t'aime davantage que le jour où je t'ai rencontré. Le plus grand bonheur du monde, c'est toujours celui que l'on a. Que ce soit une brune, une blonde, on est sûr que c'est celui-là. Pour moi, le plus grand bonheur du monde, le reflet de toutes mes joies. Je n'hésite pas une seconde, mon amour, à dire que c'est toi. Je n'hésite pas une seconde, mon amour, à dire que c'est toi.
Enrico Macias. Et tout de suite, nous allons nous montrer plus terre à terre. C'est le cas de le dire. Et ce, pour notre rubrique Saletan sur la planète, pour laquelle nous avons rendez-vous, bien sûr, avec Jean-Louis Ouatté.
Saletan sur la planète. Oh, le drôle de temps.
Eh oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution, opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire. Des terres de remblai ont été déversées dans un champ à la Gorgue, ce qui a inquiété les riverains qui se sont rapprochés du maire de Richebourg, Gérard Delahaye, et de votre association Les Trèmes Nature, dont vous êtes le président, Jean-Louis Ouatté. Bonjour.
Bonjour Martine.
Alors, on va peut-être expliquer, Jean-Louis, à la fois pour nos auditeurs et pour les agriculteurs qui pourraient être à l'écoute, une société démarche les agriculteurs pour leur proposer des terres de remblai, c'est-à-dire procéder d'abord à une excavation dans leur champ en enlevant la bonne terre, puis un déversement de remblai au-dessus duquel il y a remise de la terre enlevée. C'est bien cela, Jean-Louis ?
Oui, tout à fait. Donc, la bonne terre est mise sur le côté. Et puis, donc, on fait une excavation et dans laquelle, y a des camions de chargés de terres d'origine diverse qui vont être déversées. Puis ensuite, les bulldozers sur place vont tout de suite reboucher l'ensemble. Alors, il faut savoir que le remblaiement de parcelles agricoles, c'est une pratique qui est de plus en plus court, hein. Puisque l'objectif généralement affiché de de valorisation agronomique des terres à remblayer, ça déguise malheureusement une volonté de stocker des déchets issus de chantiers de la filière du BTP, et donc des bâtiments en travaux publics. Donc c'est une opération qu'on appelle nappage-renappage hein, de l'horizon de terre végétale qui était initialement présente. Une fois le remblai qui a été mis en place, on remet au propriétaire du terrain le terrain rehaussé avec la remise en état et puis les cultures qui peuvent soi-disant reprendre sans problème. Malheureusement, c'est souvent composé ces remblais d'un mélange de terre, de béton, de ferraille, de gravats, et il est difficile de faire admettre que finalement ce sont bien des déchets au regard de la réglementation.
Alors, comme vous l'avez dit, Jean-Louis, bien évidemment, terre de remblai, cela peut être tout et n'importe quoi, et la matière peut concerner toutes les matières existantes, terre, sable, détritus, roches, ciment, etc. etc. Et on comprend donc l'inquiétude des riverains, car il peut aussi s'agir de terres polluées. Alors, Jean-Louis Ouetté, plusieurs instances ont été saisies, et où en est-on? Parce que je crois que ça a quand même évolué un petit peu, là.
Ouais, ça a bougé, hein, ce dossier, suite à l'intervention auprès de la DREAL. Hein. La DREAL, c'est la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. Donc, c'est l'antenne du ministère de l'Écologie dans les régions. Donc, suite à nos interventions auprès de la DREAL, ce dossier, maintenant, fait l'objet d'une instruction auprès du procureur du tribunal de grande instance de Dunkerque, puisque la Gorgue est située dans le département du Nord. Il y a une enquête qui est menée conjointement avec les autorités de police concernées pour vérifier les faits et déterminer si ça relève d'une infraction ou pas. Alors, faut savoir que c'était pas un chantier banal, puisqu'il y a eu, ça concerne un terrain agricole de 1,5 hectare environ, et il y a eu près de 1200 camions qui sont venus décharger, certains matins à partir de 5h, voire 3h du matin. Et puis, savoir aussi qu'il y a eu fossés rebouchés, sol tétard arraché. Donc tout ça, c'est loin d'être neutre pour l'environnement.
Tout à fait, oui, oui. Et puis, alors, parce que finalement, Jean-Louis, du remblai, ce sont des déchets, mais il faut donc, alors, on verra un petit peu après, sur le terme environnemental, l'impact, mais là, on peut dire, il faut veiller d'abord à ce que ce soit des déchets inertes, c'est-à-dire non dangereux quand on fait remblayer.
Bah, même déchets inertes, depuis la loi de 2014, ces déchets inertes, ce type d'enfouissement composé de matériaux inertes, ça doit faire l'objet d'une demande préfectorale, et puis ça devient un site de stockage classé qui devrait donner lieu à une enquête publique auprès des riverains. Donc là-dessus, il n'y a eu aucune procédure. Alors, faut savoir qu'il y a un petit vide administratif sur ce type de sujet, puisque en fait, on se place sur l'urbanisme, hein, puisque dans les documents qui sont déposés par le pétitionnaire, alors au regard du plan local d'urbanisme, il y a une déclaration qui doit être faite en mairie. Et dans cette déclaration, il est simplement noté que c'est une déclaration qui est préalable à la réalisation de travaux qui sont non soumis à un permis de construire et qui portent sur des annexes. Et sur ce type de document qui est déposé en mairie dans les services d'urbanisme, eh bien, il est indiqué simplement que le projet consiste à exhaussement de terrain, apport de terres végétales et de limons. Alors derrière ça, il faut aller vérifier. Pour obtenir un rendu final de 1 mètre après foisonnement du terrain pour rendre la surface de terrain plane. Donc voilà un petit peu le type de déclaration qui est faite en mairie. Alors le problème, c'est que est évident que si on se place sur le volet urbanisme, le pétitionnaire est dans les clous. Le problème, c'est le contenu des terres. Et là, c'est là où le bât blesse, parce que la vérification, elle n'est pas facile à faire.
Mais vous dites ils sont dans les clous, mais Jean-Louis, a-t-on vraiment le droit de remblayer partout et n'importe où? Par exemple, des zones inondables ne doivent pas être remblayées.
Non, il y a toute une réglementation. On ne peut pas remblayer, ouais. C'est interdit de remblayer des zones humides. Il y a des zones naturelles où c'est interdit de remblayer. Non, non, c'est encadré. Lorsqu'il s'agit de terrains qui ne sont pas soumis à des règles précises, que ce soit zone humide, zone naturelle, l'autorisation peut être donnée à condition que le projet soit déclaré en mairie et qu'il ne porte pas sur des déchets inertes. Hein. Il s'agit d'apports de terre et de limon, c'est bien précisé. Et donc, malheureusement, là, à la Gorgue, les camions qui sont venus n'étaient pas tous des camions chargés de terre et de limon.
Mais en l'occurrence, justement, dans le cas de la Gorgue, y aura-t-il des prélèvements de terre rapportés afin de procéder à des analyses ?
Ah oui, tout à fait. Donc là, suite à la plainte qui a été déposée auprès de la DREAL, il y a une analyse des sols qui va être diligentée. Puisque la terre a été remuée, ça sera sans doute réalisé en tranchée, plus que normal, souvent ça se fait aussi en carottage. Alors s'il doit y avoir des poursuites, la première personne concernée sera l'exploitant. Donc dans le cas, la société belge qui a assuré l'étalement des terres. Et en cas de défaillance de l'exploitant, c'est le propriétaire. Donc il y a plusieurs cas de figure qui peuvent être envisagés. Soit il s'agit de terres inertes, sans pollution apparente, et dans ce cas, serait étudié l'aspect réglementaire dans la réalisation de stockage et donc qui normalement doit faire l'objet d'une demande préalable. S'il s'agit de remblais pollués mais dont le degré de dangerosité pourrait être contenu par une enceinte de rétention, ce sera à la charge de l'exploitant et le site va faire l'objet d'une surveillance. Et s'il s'agit de produits plus polluants, il va falloir extraire les déchets et ensuite pourvoir à leur traitement. Donc le dossier est loin d'être clos.
Et qui va payer tout ça ?
Alors qui va payer tout ça ? Normalement, c'est la société, en premier lieu, c'est la société belge qui a fait le chantier. Mais faut savoir que la société, il y a plusieurs micro-sociétés qui ont participé au chantier. Et donc, c'est loin d'être évident de mettre en évidence quelle société est responsable. En dernier lieu, c'est le propriétaire.
Et justement, Jean-Louis, nous avions vu ensemble lors d'une précédente émission qu'un troupeau avait dû être abattu à Blaringhem parce qu'il avait brouté l'herbe poussée sur des parcelles contaminées au PCB. Cela veut dire que des terres polluées, il y en a un petit peu partout. Et forcément, la première mesure à prendre est d'enlever les couches suspectes. Mais bon, justement, quand on a enlevé ces couches suspectes, on en fait quoi, Jean-Louis ? Est-ce qu'il... Et puis, finalement, tout ça, on trouve normal, finalement, que la suspicion s'installe. Hein.
Oui, tout à fait, parce que, il faut savoir que... c'est une pratique quand même qui se développe parce qu'on a de plus en plus de chantiers de travaux publics et que il y a de plus en plus de déchets qui sont issus de ces chantiers. Il faut savoir que la mise en décharge classée, elle coûte cher, donc on trouve le bon moyen d'éviter. De mettre en décharge classée, c'est d'aller prospecter auprès des agriculteurs. Vous auriez pas un champ, des points bas, on pourrait vous remettre ça en état. Alors savoir qu'il y a une compensation financière, mais ça leur coûte beaucoup moins cher que d'aller mettre en site classé. Et que derrière ça, c'est difficile de contrôler chaque camion avec le contenu de chaque camion. Il faut savoir que là, si on a 1200 camions, il en suffit de 3 avec des déchets dangereux, on ne les voit pas passer. Hein.
Et puis, on a compris qu'il ne fallait pas confondre remblai et déchetterie. Hein.
Le remblai et déchetterie, c'est deux choses qui sont quand même bien différentes. Hein.
Alors justement, Jean-Louis Ouattet, le remblai, c'est aussi quelque chose qui ne concerne pas que les agriculteurs, mais aussi des particuliers. Alors là aussi, existe-t-il des normes ? On laisse de côté les précautions à prendre pour des remblais devant supporter une construction ou un aménagement de terrain, hein, s'écroule, etc., etc. Mais je veux parler au niveau environnement. Y a-t-il là, pour les particuliers, un cadre juridique ?
Il faut savoir qu'au cours de l'année justement 2014, il y a eu une réforme complète de l'encadrement administratif des installations de stockage de déchets inertes. Hein. Déchets inertes, c'est les bétons, les gravats. Cette réforme a fait entrer justement les installations de stockage de déchets inertes dans le cadre de la réglementation des installations classées pour l'environnement. Il faut savoir que les maires, et c'est important, c'est un message que je voudrais faire passer, c'est que les maires ne sont pas démunis face à ce genre de choses, hein, parce que bon, le discours qu'on a entendu, c'est que bah oui, ça se passe sur un terrain privé, et le maire n'a pas de pouvoir d'intervention sur un terrain privé. Non, non, le maire a pouvoir de police et de salubrité sur sa commune, donc il lui appartient de vérifier que ça correspond bien au règlement du plan local d'urbanisme de sa commune, ça peut interdire tout travaux d'exhaussement sur certaines zones de son territoire communal, et notamment quand il y a un plan de prévention des risques naturels. Il peut, le maire, avertir le service de protection de l'environnement de la direction départementale du territoire pour l'informer de ce projet. Il peut exercer sa vigilance et mettre en place des moyens de surveillance adaptés pour justement vérifier. Alors, il peut vérifier la hauteur maximale du remblai, puisque ça ne doit pas dépasser 2 mètres, mais aussi vérifier le caractère inerte des travaux, des matériaux de remblai. Il peut y faire des visites régulières. Il peut demander aux pétitionnaires un plan de géomètre, un plan de gestion du chantier. Et puis, il peut sensibiliser et mettre en garde les propriétaires des terrains sur la responsabilité qui leur incombe. Mmh. Donc ça, c'est un message important qu'il faut faire passer auprès des maires. Nous, le maire de l'Étrême est tout à fait remonté contre ce genre de pratique. Il y a eu 2 essais à l'Étrême qui ont heureusement avorté parce que le maire a mis le holà. D'ailleurs, il a signé un arrêté qui interdit tout exhaussement de terres agricoles qui ne relève pas de travaux d'aménagement ou de travaux de bâtiment, par exemple.
Donc on a bien compris, Jean-Louis, que lorsqu'un propriétaire veut par exemple remblayer autour de son habitation, eh bien la meilleure chose à faire, c'est de s'adresser à la mairie.
C'est de s'adresser à la mairie pour savoir si son projet est tout à fait envisageable, et puis savoir justement les risques qu'il encourt, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Le plan local d'urbanisme est là justement pour encadrer tout ça. Et le maire a police de salubrité.
Tout à fait. Bah, Jean-Louis Ouattet, merci. Merci. Voilà. Et nous nous disons à la semaine prochaine.
La semaine prochaine, bonne semaine.
Bonne semaine à vous.
Au revoir.
Quasiment dans les mêmes parages, et tous les ans je trouve du changement dessus mon passage. À tous les coups, c'est pas le même chien qui gueule à mes choses. Et puis voyons si je me souviens, voyons dans ce coin de Beauce. Il y avait dans le temps un vieux grand chemin, cheminot, cheminot, cheminot. Astor n'est pas plus grand que ma main. Par où donc je irai? En Beauce, vous ne les connaissez pas. Pour que rien ne se perde, mangerai n'importe quoi, ces gars-là. Ils mangeraient de la merde. Le chemin, c'était à leur jugé de la bonne terre perdue, qu'à chaque labour ils ont mangé d'un sillon de charrue. Y avait dans le temps un bio grand chemin, cheminot, cheminot, chemine. Astor n'est pas plus grand que ma main. Par où donc à grossir leurs heures pamboulues d'une bonne glèbe toute neuve. Le pauvre chemin en est devenu mince comme une couleur. Et moi qu'avec lui sous les cieux pour poser me guibole. Le chemin à tout le monde, nom de Dieu, c'est mon bien qu'on vole. Y avait dans le temps un vieux grand chemin, cheminot, cheminot, chemine, à ce n'est pas plus grand que ma main. Par où donc
C'était le groupe Entre deux caisses. Et tout de suite, notre rubrique animalière avec Christine Defort.
Paul Léoto disait: les gens qui ne s'intéressent pas aux bêtes ne savent pas quelle merveille de bonté, de fidélité, d'attachement, d'intelligence curieuse on trouve en elles. C'est la plus charmante compagnie quand on sait s'y prendre, et je parle de toutes les bêtes.
Les yeux de chat sont fascinants, de toutes les couleurs, mais se situant le plus souvent entre le jaune, vert et l'or. Et alors, ils ont une forme en amande universelle qui leur confère tout leur charme. Mais attention, ils doivent être surveillés pour conserver tout leur éclat et toute leur beauté. Bonjour Christine.
Bonjour Martine et bonjour à tous.
Alors, il se passe tellement de choses dans les yeux d'un chat. On peut y déceler ses états d'âme, ses humeurs, voir son bien-être ou sa souffrance, n'est-ce pas?
Oui Martine, les yeux des chats ont des pupilles extrêmement réactives à la lumière qui peuvent donc se réduire à de très fines fentes en pleine lumière et se dilater complètement dans l'obscurité. Nous qui avons des chats, nous remarquons tous les jours. Ça leur permet aussi de voir où nos yeux ne verraient rien. Les iris colorés lumineux, nous signalent de manière particulièrement significative l'état d'esprit du chat. Ainsi, les yeux d'un chat effrayé ou excité semblent rouges, car on peut voir les vaisseaux sanguins rétiniens à travers les pupilles qui sont dilatées. S'il est calme, ses yeux sont bien ouverts, mais non dilatés, comme lorsqu'il est effrayé. S'il chasse, ses yeux sont bien ouvert et fixé attentivement sur sa proie. Les chats, comme bon nombre d'animaux, n'aiment pas non plus qu'on les fixe droit dans les yeux. Un petit peu comme nous aussi. Ils le considèrent comme une très grande impolitesse, un manque de courtoisie, d'éducation. Et oui, ils aiment par contre qu'on les regarde en clignant des yeux affectueusement. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'ils nous répondent en clignant également des yeux.
Alors Christine, justement, les yeux des chats sont magnifiques, c'est vrai, mais il peut arriver que le chat souffre de pathologies aux yeux. Alors certaines sont courantes, d'autres moins. Alors justement, quelles sont les maladies des yeux qui peuvent les affecter?
Alors très souvent, ce sont les conjonctivites qui sont d'origine virale. Elles sont associées à des problèmes respiratoires, bien souvent aussi. Donc les symptômes, sont des larmoiements intenses, des rougeurs et un prurite. Il est donc conseillé d'appliquer, dans un premier temps, des compresses de thé à température tiède qui va soulager le chat. Mais bien sûr, si cela persiste, la consultation chez un vétérinaire est évidente. Il y a aussi l'UV qui peut être infectée, ce qu'on appelle donc là, à ce moment-là, l'UVite. C'est une inflammation qui est causée par des corps étrangers et des infections virales. Les glaucomes provoquent aussi une augmentation de la pression intraoculaire, ce qui peut être très dangereux, et les symptômes sont un œil gonflé et une pupille dilatée. Il faut donc agir rapidement avant que l'œil grossisse au point de se lacérer. Par exemple, les races de chats qui sont susceptibles d'avoir ce type de problème, ce sont surtout les persans et les siamois. Le système lacrymal aussi peut être touché par des infections. Ce qu'on appelle l'épiphora, c'est causé par une sténose partielle ou totale du canal nasal. En fait, le canal nasal ne véhicule plus de larmes vers les narines. Celles-ci donc restent coincées dans les paupières inférieures. Toutefois, ce n'est pas trop très inquiétant, mais il faut quand même consulter et s'alarmer. Au niveau de la cornée, on observera plus particulièrement des kératites qui provoquent des clignements fréquents des yeux, des larmes, une sensibilité à la lumière. Et cette infection est généralement causée par des virus ou des bactéries. Et des races de chats aussi sont prédisposées à ce type de problème. Donc là, n'appliquez rien sur l'œil de votre chat. Il est impératif d'aller consulter le vétérinaire.
Alors, chez nous, humains, il arrive des décollements de rétine. Est-ce que c'est possible chez un chat, Christine?
Oui, c'est possible et c'est fréquent, Martine. Hein. Ils sont consécutifs à des maladies plus générales et peuvent souvent régresser, bon, spontanément. Voilà. Mais le type de chat, eh bien, ce sont aussi des abyssins et des persans.
Et puis, Christine, bon, il y a les paupières avec cette fameuse troisième paupière, hein. La paupière nictitante.
Tout à fait, la paupière nictitante qui reflète bien souvent un problème de santé au niveau du chat. Si cette membrane, c'est la membrane qui se situe dans le coin de l'œil, qui vient recouvrir l'œil. Et là, ça peut faire des dégâts. Il faut quand même, là aussi, consulter votre vétérinaire si ça persiste. Hein. Ça peut arriver que la paupière nictitante se manifeste quelques heures, mais au-delà d'une journée, il faut quand même consulter.
Alors, il arrive, Christine, que certains chats attrapent un gros œil, on va dire, c'est-à-dire une protrusion du globe oculaire.
Oui, alors cette protrusion est due presque toujours à des combats ou à des bagarres entre chats. Et l'intervention, là, du vétérinaire doit être immédiate.
Que faire avant toute chose si le chat a quelque chose aux yeux, Christine ?
Ben, il faut tout de suite lui mettre une collerette, je sais, c'est barbare, hein, mais il faut surtout pas se laisser attendrir, parce que sinon il va se gratter. L'œil, comme nous, on peut, hein, Martine, quand on a quelque chose dans l'œil, on a tendance à vouloir se gratter. Donc le chat, lui, nous, on va se contrôler, mais le chat ne se contrôlera pas. Donc en attendant, mettez-lui une collerette et bien entendu, consultation chez votre vétérinaire, c'est évident.
Oui, consultez rapidement car il ne faut surtout pas décider, nous, du traitement à donner ou à appliquer. Et pour cause, hein, il y a des traitements qui peuvent faire pire que mieux. Hein.
Bien sûr, bien des dégâts et certaines affections peuvent présenter les mêmes symptômes, mais être différentes. Et donc là, il faut impérativement aller chez votre vétérinaire. Comme je disais tout à l'heure, oui, des compresses de thé, mais surtout pas de traitement ou de colire, comme on le disait la semaine dernière, Martine, pas d'automédication,
oui,
sans avis médical.
Surtout, Christine, que certains traitements auront besoin de corticoïdes ou d'antibiotiques ou de colires. Et là, il y en a plusieurs, ou alors de pommades. Et seul le vétérinaire est habilité à donner le traitement adéquat, d'autant plus qu'une atteinte de l'œil provoque des vives douleurs. Alors par contre, Christine, il n'est pas interdit de veiller à l'hygiène de l'œil de son félin.
Bien sûr, on peut veiller les poussières, le nettoyer, soit avec un du thé, comme je vous disais, ou bien de l'eau de bleuet, ou des petites choses comme ça. Mais bon, il faut contrôler s'il y a des petites larmes, les essuyer, mais il faut être vigilant.
Christine, merci. Et la semaine prochaine, eh bien, nous compléterons cette rubrique avec les problèmes de cécité, de malvoyance chez le chat, car il faut savoir que l'altération de la vue ne touche pas uniquement les animaux âgés. Les jeunes peuvent être touchés le plus souvent pour des raisons génétiques ou à la suite d'un traumatisme justement mal soigné ou qui a mal tourné. À la semaine prochaine, Christine.
À la semaine prochaine, Martine, et si je peux me permettre, je remercie toutes les personnes qui ont participé au marché de Noël qui était ce week-end.
Au marché de Pâques.
Pardon. Merci, Martine. Au marché de Pâques. J'étais en malencée. Donc, au marché de Pâques, on a eu de nombreux participants. Et là, j'avais encore quelques compositions. Et grâce à Facebook, je viens de vendre mes dernières compositions. Donc, merci pour eux.
Merci, Christine. Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Les yeux de loup fièvre d'amour derrière le masque, yeux de hibou figé au cœur de la bourrasque, yeux noisette en amande d'une femme écureuil, tes grands yeux noirs lisette quand tu portais mon deuil, les yeux dans le bouillon pleurent des larmes domestiques, les yeux de plâtre au front d'une statue antique, les yeux du ruminant qu'on abat et qui beugle, les yeux au bout des doigts des pianistes aveugles, les yeux, monsieur, ça roule, roule comme des billes, le long des caniveaux de l'enfance en guenille. Les yeux, monsieur, quand ils vous tendent leur corolle, il ne leur manque vraiment même pas la parole. Les yeux brouillés de vin, de chagrin, de caresse, les yeux du chien pendu tout au bout de sa laisse, les yeux pochés du boxeur qui vacille et qui tombe, les yeux fixes des morts cloués dessous les tombes, les petits yeux piécettes au fond des pas de laine, les yeux mini-cassettes qui jaseraient vers l'aile, les yeux noirs d'un russe blanc immigré en 17, et mes yeux de perdrix cachés sous mes chaussettes. Les yeux, monsieur, ça tue, ça viole, ça déshabille, ça perce les cuirasses et les robes des filles. Les yeux, monsieur, quand ils vous tendent leurs corolles, il ne leur manque vraiment même pas la parole. Les yeux Jésus-Judas au hasard de vos bibles, les yeux Casanova où il vend le terrible, les yeux la Margot qui crève ou qui s'allume, les yeux si beau garbeau, si noche de ma plume. Les yeux sont les acteurs et quand ils se reposent, à la fin de la pièce quand arrive la pause, les yeux sont les acteurs et quand vient la dernière, ils baissent le rideau, ils ferment les paupières. Les yeux, monsieur, quand ils s'enrayent, quand ils s'arrêtent, ils restent là, fixés sur une autre planète. Les yeux, monsieur, quand ils referment leur corolle, alors là, oui, vraiment, il leur manque la parole.
Henri Tachant, et si justement vous vous rendez à Loison-sous-Lens ce week-end, eh bien vous en aurez plein les yeux et vous ne pourrez qu'admirer la peinture contemporaine de Gilles Huret. Gilles, on ne peut pas avoir ni l'étoffe ni les connaissances suffisantes pour juger de la qualité d'une œuvre ou d'une peinture, mais on peut tout simplement aimer. David Hume disait « La beauté des choses existe dans l'esprit de celui qui les contemple » et je vous invite donc à contempler les œuvres de Gilles Huret qui expose ce week-end et il lui appartient de vous en dire plus. Bonjour Gilles.
Bonjour Martine.
Alors, lors d'une précédente émission, vous nous aviez parlé d'Art Déco parce que vous êtes artiste peintre indépendant de Lens et des environs. Et je rappelle qu'actuellement, et depuis le 1er mars, c'est le printemps de l'Art Déco, hein, une bonne raison d'avoir mis en point de mire ce style architectural avec vous, puisque vous êtes spécialiste en réfection de façade et d'intérieur de ce style, mais pas que. Car vous avez aussi cette autre passion de la peinture sur toile, peinture contemporaine. Mais avant de commenter cette passion, dites-moi Gilles, où exposez-vous ce vendredi et samedi ?
Donc là, c'est trois jours, donc vendredi, samedi et dimanche. Donc vendredi soir, ça sera le vernissage, 18h. Hein, donc ça se termine le dimanche à 17h pour la remise des prix, et puis pour le petit discours que je dois faire. Donc voilà, donc c'est tous les ans là-bas à Loison, maintenant, du courant du mois d'avril. Hein, ça se fait régulièrement depuis 5 ou 6 ans déjà. Voilà.
Alors, peinture contemporaine, certes, mais vous allez nous en dire plus, car c'est vrai que le sujet est vaste.
Oui, c'est un courant picturo qui a existé depuis déjà pas mal d'années, depuis plus d'un siècle, si on veut, parce que ça a commencé par l'impressionnisme. Hein, puis après, bien sûr, ça. Et on a du mal à définir parce que maintenant, c'est au goût des artistes actuels. Donc, puis c'est en train d'évoluer encore quoi, avec le numérique. Mais bon, il y a eu des sacrés artistes de l'époque, surtout les Américains. Enfin, à mon avis personnel, c'est les Américains qui ont lancé ces tendances encore plus dans les années 60. Hein, avec l'hyperréalisme, c'est eux qui ont lancé ça. Puis après, il y a le cubisme, le fauvisme, le surréalisme, le pop art, hein, qu'on connaît bien d'ailleurs. Donc voilà, c'est un courant qui est assez difficile à définir actuellement.
Alors, l'art est beau quand la main, la tête et le cœur de l'homme travaillent ensemble, disait John Ruskin. Alors, dites-moi, oui. Gilles Huret, qu'est-ce qui dirige votre main ?
Bah, écoutez, c'est ma pensée, mon état d'âme. Hein, c'est une expression très personnelle. Hein, pour les peintres, donc si on n'est pas trop bien dans sa tête à un certain moment, les peintures vont changer. Chaque peintre a sa façon de peindre selon son état d'âme, quoi, comme j'avais dit au début. Donc voilà quoi.
Ce qui veut dire finalement, j'ai lu que votre peinture est un petit peu le miroir de vous-même.
Exactement, voilà. C'est ce qui reflète beaucoup d'ailleurs. Hein, chaque peintre reflète un peu son humeur du temps, etc. Donc il faut absolument qu'il soit bien à 100% pour pouvoir faire quelque chose de correct. Parce qu'on on le ressent tout de suite. Hein. Mm. Hein, y a des tendances comme ça par moment où ça va un peu moins bien, etc. Donc il faut essayer de canaliser tout ça, quoi.
Alors, donc, on a bien compris, c'est un mélange d'émotions, d'impressions, voilà. Ce qui vous fait peine. Mais alors, dans votre peinture, qu'est-ce qui l'emporte, l'intelligence ou l'intuition ?
Ça serait plus l'intelligence que l'intuition. L'intuition, elle vient après, moi, je trouve. Enfin, pour mon avis personnel. Hein. Après, bon, il y a d'autres gens qui seraient peut-être moins d'accord. Mais bon, puis c'est aussi pour faire réagir les gens, de transmettre un message. Hein. Moi, je suis assez anticonformiste. J'ai pas qu'un style, parce que les peintres qui sont déjà connus et reconnus, ils ont un style vraiment particulier. Donc moi, je suis un petit peu dans les extrêmes. Ça peut être du classique ou du très moderne. Bon, là, pour l'instant, j'ai pas encore la notion encore, parce qu'il faut des années de pratique pour arriver à un style vraiment bien défini. Donc, pour l'instant, c'est encore aléatoire, quoi. Mais bon.
Mais justement, là, avez-vous envie que les autres, en regardant votre peinture, éprouvent les mêmes sentiments que vous ? Ou alors, est-ce que quand vous êtes là, est-ce que vous expliquez vos peintures ?
Exactement, voilà. Donc, il faut, moi, je dis toujours, il faut essayer de faire réagir les gens avec, il faut que ça interpelle les gens, surtout. Moi, c'est ma devise, il faut que ça interpelle les gens, soit dans les couleurs, ou dans une expression d'un visage, etc. Donc là, les gens me demandent pourquoi, est-ce que j'ai voulu faire ça, etc. Que j'avais fait une femme entachée, tout le visage blanc, et puis avec la couleur de la peau qui coule sur son visage. Donc j'ai expliqué que les femmes, actuellement, c'est pas encore ça, qu'il y a au niveau de la parité, etc. Donc il faut expliquer un peu ça aux gens, quoi.
Allez-y, Gilles.
Oui, bon, voilà, donc c'était pour vous dire que, il y a toujours un message à faire passer dans les peintures aussi. Hein.
Donc justement, j'allais vous dire, finalement, la peinture peut être un moyen de communication et d'échange avec les autres.
Voilà, exactement. Donc il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, etc. Pourquoi j'ai voulu faire ça. Donc comme j'avais dit, il faut absolument que je fasse passer un message. Hein, comme beaucoup de peintres, arrive à un certain niveau, surtout quand on va sur des grandes expos, il faut dire le pourquoi qu'on a voulu exprimer tel ou tel message dans une peinture. Parce qu'avant, ça ne se faisait pas trop, il y a quelques siècles de ça. Et c'est venu après par la suite. Donc, ça a évolué. Et puis, maintenant, il y a deux sens maintenant dans les peintures, surtout, hein, maintenant.
Alors, voilà. Vous étiez peintre de métier, vous êtes peintre de métier, mais comment en êtes-vous venu à la peinture sur toile ?
Ben écoutez, j'ai fait plusieurs formations, hein, donc pour essayer de me perfectionner tout ce qui est art déco par la suite, quoi. Et donc il y avait une prof de dessin qui m'a remis un peu sur les rails, quoi. Parce que j'avais arrêté pendant plus de 20 ans. J'avais commencé depuis l'enfance, donc après j'avais carrément arrêté. Mais après sur toile, là c'était depuis 2008. Alors je me suis dit, ben là, depuis quelques années, quand j'ai commencé à faire des concours, je me suis senti plus artiste depuis 2011, quand je suis rentré à Lens, quoi, sur concours.
Alors, vous m'avez dit être autodidacte, mais quand même, pour arriver à un tel résultat, il faut quand même être doué. Hein, et pour que les auditeurs intéressés, justement, se rendent compte, peut-être pouvez-vous, Gilles Huret, les orienter vers un site sur lequel figurent vos toiles ?
Oui, voilà. Donc, ouais, il faut, être doué, oui. Il faut aussi beaucoup de travail, c'est ça. Moi, j'ai toujours les trois initiales TTC. Travail, talent et chance aussi. Donc, le site que j'ai, je suis sur un site international. Donc, c'est www.artistecontemporaincollet.net. Et après, j'ai un blog, c'est peintre-gilles-huret-overblog.com.
Et parce que vous avez déjà un beau palmarès, n'est-ce pas, Gilles ?
Ouais, j'ai à peu près une dizaine de prix. Surtout le Rotary qui avait organisé dans quelques années sur Lens avec 180 peintres, j'avais remporté ce prix. Et puis sur le Touquet où il y avait eu des expos internationaux. Et donc là j'avais été sélectionné parce qu'il fallait être sélectionné sur Internet. Et j'étais pris sur des milliers de gens dans le monde entier. Donc c'était un truc intéressant. Bon, c'était un bon commencement pour moi, quoi. Parce que là, j'ai débuté vraiment là, hein, encore.
En tout cas, on rappelle votre exposition. Ça se tiendra donc vendredi, samedi, dimanche à Loison-sous-Lens. La salle...
Ben, c'est la salle Cuvelier. C'est rue Raymond Spa. Ben, donc, voilà. Donc,
et c'est de 10h à midi?
Voilà, de 10h à midi, de 14h à 18h.
Voilà. L'entrée est payante?
Non, tout est gratuit.
Voilà, entrée gratuite, qu'on se le dise. La salle Cuvelier à Loison-sous-Lens tout ce week-end.
Voilà, je serai avec tous mes modèles femmes qui ont posé pour moi. Donc, voilà, il y aura du bon monde, quoi. Il y aura quelques députés, il y aura quelques politiques.
En général, quand on va dans une exposition, ce n'est pas à moins que pour les politiques ou les députés. C'est quand même pour voir l'exposition. Surtout vos peintures, elles sont très, très jolies, vraiment à voir absolument. En tout cas, Gilles Huret, merci. Et continuez donc à vouloir atteindre le beau, ce qui n'a pas de frontières. Merci, merci. Gilles. Merci à vous.
Merci à vous. Merci, bonne journée.
Bonne journée.
Les couleurs essentielles, des plus tristes aux plus belles, inutiles, irréelles, à ne plus savoir lesquelles. Dans cette aquarelle, et de l'espoir à la colère, qu'on en fit passer du rouge au vert, peinture et sentiment primaire, à ne rien pouvoir y faire, de vivre ou se taire, couleur aimée, nos vies dessinées. Les couleurs passent-elles comme un arc-en-ciel? Couleurs des mélodies décolorées. Les couleurs passent-elles vers le grand sommeil par la couleur du nez? On repeint son tableau comme on peinture moins brillante ou plus vive, passe mes coloris et passe la vie. Couleur d'aimer.
Voilà, c'est avec Noah que se termine cette ère du temps, cette émission. Et alors justement, puisque Noah a chanté les couleurs d'aimer, surtout voyez la vie en rose tout au long de cette semaine et puis laissez les idées noires de côté. Et en effet, je vous souhaite une vie pleine de couleurs et tant mieux si elles sont celles de l'amour. Alors on se retrouve, si vous le voulez bien, la semaine prochaine. Et puis là, tout de suite, si cela vous dit de poursuivre avec moi, eh bien ce sera en musique et en chanson avec Kaléidoscope. Sinon, bye bye à vous.